Voilà, donc nous allons aborder cet après-midi l'étude de Babylone. Et je voudrais donc introduire cette réflexion par deux lectures dans le livre de la Genèse, au chapitre 10 d'abord, et à partir du verset 6. Ce sont les généalogies de ce qu'on appelle la table des nations, c'est-à-dire les généalogies des descendants des trois fils de Noé. Les fils de Ham furent Cush, Mitzrayim, Put et Canaan. Les fils de Cush, Seva, Havila, Sapta, Réma, Sapteka. Les fils de Réama, Sheba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui le premier fut un vaillant chasseur sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De là, de ce pays-là, sortit Achour, il bâtit Ninive, la ville, et Rovot, Calar et Resen, la grande ville entre Ninive et Calar. Et puis, au chapitre 11, nous lisons à partir du verset 1er. Or, toute la terre parlait un même langage, avait les mêmes mots. Parti de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici un seul peuple, ils parlent tous un même langage et voici ce qu'ils ont entrepris de faire. » Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils ont décidé de faire. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Au XIXe siècle, le grand homme de lettres britannique que fut Charles Dickens écrivait un roman qui eut un certain succès, qui eut un grand succès, et qui en a encore d'une certaine manière, s'appelait en anglais A Tale of Two Cities, une histoire de deux villes. La Bible aussi est une histoire de deux villes. Et les sages d'Israël ont dit, il n'y a au monde que deux villes. Jérusalem et Babylone. Et ces deux villes sont absolument opposées l'une à l'autre. Elles ne peuvent pas coexister. Quand l'une existe, l'autre est en ruine, et vice-versa. Et au temps de la fin, une de ces deux villes devra être éliminée pour laisser la place à l'autre. Et tout individu dans le monde est forcément citoyen d'une de ces deux villes. Ou il est citoyen de Jérusalem, ou il est citoyen de Babylone, et cela dépend de son choix libre. Et quand nous regardons la Bible, nous constatons que cette affirmation se confirme. La première ville qui est construite, c'est justement Babylone. Une des premières villes qui est construite après le déluge. Ce n'est pas la première ville, en réalité. La première ville a été construite par Caïn et elle a été nommée Hanor, Enoch, du nom du fils, d'un des fils de Caïn. Il faut savoir que dans la Bible, la ville, c'est quelque chose de négatif. Ville se dit en hébreu ir, ce qui vient de la racine maudire. La ville, c'est le lieu de la malédiction. Et la volonté de Dieu n'était pas, au commencement, que l'homme vive dans des villes. Et pourtant, le premier qui construit une ville, c'est Caïn, le pécheur, et il va donner le signal d'une civilisation qui sera une civilisation urbaine, une civilisation qui porte les germes, ce qui est extraordinaire. Quand nous lisons la Bible, c'est de constater que cette civilisation porte les germes d'une civilisation qui sera la nôtre. Et ville, c'est quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, mais qui est conforme à la volonté de l'homme. Or, Dieu a une manière de se comporter vis-à-vis de l'homme qui peut nous sembler quelque peu étrange. Dieu assume les choix de l'homme. Et lorsque Dieu se retire dans son repos le septième jour de la création, c'est justement pour laisser place à la liberté de l'homme. Et la liberté de l'homme ne correspond pas toujours à la volonté de Dieu. Mais c'est la volonté de l'homme. Et Dieu l'assume. Dieu même, je dirais, l'utilise pour l'accomplissement de ses plans, pour l'accomplissement de ses desseins. Par exemple, au chapitre 2 du livre de la Genèse, nous voyons Dieu qui fait venir les animaux vers l'homme pour voir comment il va les nommer, afin que tout homme porte le nom que l'Éternel, que tout animal porte le nom que l'Éternel, que l'homme lui donnera. Dieu assume ce qu'a été le choix de l'homme. Toi, homme, tu as décidé que cet animal s'appellerait un chien. Eh bien, pour moi, Dieu, eh bien, cet animal, ce sera un chien. Tu as décidé que cet animal, ce serait un chat. Il s'appellerait un chat. Eh bien, pour moi, il s'appellera aussi un chat. Nous retrouvons ça aussi, par exemple, avec l'histoire d'Israël qui demande un roi. Israël voulait être comme les autres nations et ce n'était pas la volonté de Dieu. Et lorsque Israël va demander un roi au prophète Samuel, au nom de Dieu, ce dernier va s'opposer à la décision d'Israël. Et il fait tout pour empêcher la réalisation de ce dessein. Et Dieu lui parle et lui dit, laisse faire. Ils ont décidé d'avoir un roi. Très bien, donne-leur un roi. Avertis-les de ce que ça va leur coûter, mais donne-leur un roi. Mais ce roi, c'est moi qui le leur donnerai. Ce sera un roi qui sera selon mon cœur. Et voyez-vous, Dieu assume les choix de l'homme, mais tout en quelque sorte en apportant des correctifs et en faisant en sorte que le choix de l'homme ne soit pas en quelque sorte mortifère, ne soit pas quelque chose qui conduise à des catastrophes. Et nous retrouvons la même chose pour la ville. L'homme, Dieu ne voulait pas que l'homme vive dans des villes, mais l'homme a furieusement envie de vivre dans des villes. Très bien. Vous voulez vivre dans des villes? Très bien. Mais cette ville, c'est moi qui voulais vous la donner. Cette ville, ça sera Jérusalem, la ville de Dieu. Donc, deux villes qui sont antagonistes. Et la première de ces villes, après déluge, c'est Babel. Babel, c'est la construction d'un des fils de Caïn. Nimrod est un descendant de Caïn. Et il va construire cette ville qui est Babel, dans laquelle on retrouve les bases de la civilisation moderne. Il nous est dit que ce Nimrod en question est un vaillant chasseur devant l'Éternel. Peut-être il faudrait dire deux mots de son nom, Nimrod. Ça vient d'une racine, la racine Nimrod, qui veut dire se révolter. Nimrod, c'est le révolté. C'est celui qui se révolte contre Dieu et qui entraîne toute l'humanité dans cette révolte-là. Ça veut dire dans la première grande apostasie, puisque l'apostasie, dont nous allons également parler, signifie en réalité la révolte. Nimrod, c'est le révolté. Il est vaillant chasseur devant l'Éternel. Et on peut aussi comprendre et traduire cette expression de la manière suivante, « vaillant chasseur contre l'Éternel, en opposition avec l'Éternel ». Et Nimrod est bel et bien cet opposant, il est en même temps « tsaïd », c'est-à-dire un conquérant, et il est animé de l'esprit de puissance. Et en cela, les sages d'Israël ont dit quelque chose de très important, parce que nous voyons que Babel, c'est une ville qui va rester inachevée. Dieu va intervenir, Dieu va descendre, et il va confondre le projet des hommes. Mais il va la confondre de telle manière que les hommes vont cesser de construire la ville et ils vont être dispersés. Et Babel va rester une ville inachevée. Et le rêve de tous les hommes, de tous les temps, et plus particulièrement de tous les conquérants, ça a été de reconstruire Babel, c'est-à-dire de construire un empire mondial. Babel, c'est l'empire mondial. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le grand village mondial, qui est caractérisé par l'esprit de puissance, l'orgueil. Et en cela, dans la tradition juive, Nimrod devient l'image même de l'Antichrist, un monde où il crée un monde où tout est ramené à l'homme. Il construit cette ville dans un endroit qui s'appelle Shinéar, ce qui signifie en hébreu ce qui précipite, ce qui secoue. Donc il y a toute une symbolique des noms ici, des noms propres qu'on trouve dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure. C'est le lieu du péché par excellence. C'est le lieu de l'exil aussi du peuple de Dieu. Et là, donc, nous voyons ces hommes qui ont l'intention de construire une civilisation mondiale. On appellerait ça aujourd'hui le grand village mondial. Et c'était effectivement particulièrement vrai pour Babel, qui était une ville au sens ancien, au sens antique du terme, mais qui, si on l'apprenait aujourd'hui dans son acception à présente, ne serait finalement qu'un gros village. Donc le grand village mondial, un grand village dont Dieu est exclu. Et là se pose la question, pourquoi Dieu s'en prend-il à cette ville de Babylone? Qu'est-ce que Dieu a contre la ville de Babylone? Alors la réponse classique, c'est que l'on avait construit une tour qui était trop haute, qui faisait de l'ombrage au Seigneur. Mais cette tour qui avait été construite n'était au regard du Seigneur qu'une simple taupinière. Que dis-je, une taupinière? Oui, vraiment, une taupinière. Deux fois rien. Dieu ne pouvait pas prendre ombrage de ce misérable édifice qui avait été construit par les hommes, par Nimrod et par ceux qui étaient autour de lui. Alors, il y a une autre explication, il y a une autre interprétation qui est donnée à ce péché des gens de Babel, c'est l'idée que Dieu voulait qu'ils soient dispersés sur toute la surface de la terre et ils ont voulu rester ensemble. Et le péché des gens de Babylone, ça a été justement de vouloir rester ensemble. Mais dans la Bible, le rassemblement, c'est toujours quelque chose de positif. L'exil, au contraire, c'est négatif. La dispersion, l'exil, c'est un jugement, c'est une punition de Dieu. Par conséquent, le désir de rester ensemble n'était pas quelque chose de positif, de négatif, ce n'était pas quelque chose qui pouvait irriter le Seigneur. Quel était donc le péché des gens de Babylone? Eh bien, notre texte le laisse entendre, faisons-nous un nom. Voilà le mot-clé. Et nous qui sommes des Occidentaux du XXIe siècle, nous avons du mal à comprendre quel est le sens exact de cette expression « faisons-nous un nom ». Nommer, c'est quelque chose de très important dans la Bible. Avoir un nom, c'est plus qu'avoir une identité, c'est notre être même, notre être spirituel qui est caractérisé par le nom que nous portons. Et nommer quelqu'un ou nommer quelque chose, c'est prendre pouvoir, c'est prendre autorité sur ce quelqu'un ou sur ce quelque chose. Par exemple, quand Dieu crée au commencement, dans le premier chapitre de la Genèse, il nomme ce qu'il a créé. Et c'est ainsi, par exemple, que la lumière, il va l'appeler jour, et les ténèbres, il va les appeler nuit. L'amas des eaux, il va l'appeler mer, et le sec, il va l'appeler terre, et ainsi de suite. Dieu nomme les objets qu'il crée, ça veut dire. Il affirme en les nommant qu'il en est le maître, qu'il en est parce qu'il en est le créateur, et ces objets sont à lui. ils lui appartiennent, mais non seulement Dieu a autorité sur ce qu'il a créé, sur l'œuvre de ses mains, mais il a aussi des responsabilités. Nommer, c'est aussi reconnaître que l'on a des responsabilités vis-à-vis de ce que l'on nomme. J'ai parlé tout à l'heure de Dieu qui fait venir les animaux vers l'homme afin qu'il les nomme. Pourquoi ? Parce qu'en les nommant, Dieu, l'homme va prendre autorité sur les animaux. Or, en faisant cette démarche, l'homme va accomplir tout simplement l'ordre que Dieu lui a donné. Au commencement, quand il l'a créé, il a dit « Soyez féconds, multipliez, dominez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur les bêtes de la terre. » Par conséquent, il y a cette autorité qui est prise. Nous retrouvons ça dans notre culture moderne, jusqu'à un certain point. Quand un enfant naît, ce sont ses parents qui le nomment. Et en le nommant, ils disent en quelque sorte, reconnaissons que cet enfant est notre enfant, nous avons autorité sur lui, et en même temps nous avons des responsabilités à son endroit. Et puis, on trouve ce magnifique texte dans le chapitre 43 du livre du prophète Ésaïe, où le Seigneur appelle Israël qui est en exil, qui est en Babylonie, et il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. Ne crains pas, je suis avec toi, je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Je t'ai créé, je t'ai façonné. Donc, j'ai le droit, puisque je suis ton créateur, j'ai le droit de te nommer. Ça veut dire, j'ai autorité sur toi. Et en même temps, ne crains pas, parce que si tu m'appartiens, si tu es à moi, alors j'ai des responsabilités envers toi. Et je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et ainsi en est-il de ce qu'a été la manière dont Dieu a traité l'homme au commencement. Au moment de sa création, il le nomme Adam. Et l'homme devient ici un serviteur de Dieu. Mais les gens de Babel sont d'une autre essence. Ils veulent se nommer eux-mêmes. Faisons-nous un nom. Ça veut dire, ils ne veulent pas dépendre de Dieu. C'est le vieux slogan des anarchistes, ni Dieu ni maître. Soyons nos propres maîtres. N'ayons de compte à rendre à personne. N'ayons de responsabilité vis-à-vis de personne, et notamment vis-à-vis de Dieu, si ce n'est à nous-mêmes. Ça veut dire, c'est une manière aussi de s'auto-diviniser. Et ça, c'est le péché des gens de Babel. Et ce péché des gens de Babel, il s'oppose à l'attitude d'Abraham, que l'on trouve au chapitre suivant, où Abraham sort de Babel lui aussi. Il est pris dans ce grand mouvement d'exil qui suit le jugement de Dieu sur Babel, et lui aussi va se mettre en route vers un pays, vers un lieu qu'il ne connaît pas. Mais, contrairement aux gens de Babel, qui vont à l'aventure, qui vont sans savoir où ils vont, Dieu dit à Abraham, « Vers le pays que je te montrerai. » Il part sur l'ordre de Dieu. Et Abraham, Dieu fait cette promesse à Abraham, « Je rendrai ton nom grand. » Ça veut dire, puisque tu acceptes de m'obéir, puisque tu acceptes mon autorité sur ta vie, alors moi, je te ferai un nom, je te nommerai, et je rendrai ce nom grand pour toutes les générations, pour toutes les familles de la terre. On retrouve ça aussi, par exemple, avec David, le roi qui était selon le cœur de Dieu dont nous avons parlé tout à l'heure, où Dieu dira à David, « Je t'ai donné un nom, un grand nom, comme celui des grands de la terre. » Et David devient ainsi un roi extrêmement important dans l'histoire de l'humanité parce que justement il a accepté l'autorité de Dieu dans sa vie. Les gens de Babel, eux, refusent cette autorité. Ils sont véritablement en révolte, comme l'avons vu tout à l'heure, et Ils ne veulent plus être nommés, ils veulent se nommer eux-mêmes. Ils veulent prendre leur indépendance, se séparer de Dieu, et plus que se séparer de Dieu, l'exclure de sa création. Et Babel devient en quelque sorte un paradis terrestre, un substitut de l'Éden, comme finalement la visée de toutes les villes. Qu'est-ce que c'est qu'une ville ? C'est une espèce de tentative de l'être humain de reconstituer l'Éden perdu, le paradis perdu. Là, il y aura les facilités nécessaires, il y aura le confort, il y aura la communication, il y aura finalement tout ce qui a échappé à l'homme au moment où il a été expulsé du jardin d'Éden par le Seigneur. Et il est intéressant de noter que jusqu'à 1945, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 80% de l'humanité vivait à la campagne. Aujourd'hui, la proportion est totalement inversée. 80% de l'humanité vit dans des villes. Et nous sommes en train de voir ici apparaître sous nos yeux ce qu'on commence à appeler de plus en plus le grand village mondial. Nous sommes en train de voir une Babel apparaître sous nos yeux et se reconstituer dans ce désir que nous évoquions tout à l'heure, celui de reconstruire et d'achever Babel. Babel, c'est pourtant un lieu très particulier. Ce lieu qui était destiné à devenir une sorte de paradis terrestre devient exactement son contraire. Et ce qui va naître, selon les sages d'Israël qui ont beaucoup commenté ce texte, c'est un empire totalitaire. Un empire où l'homme perd totalement sa liberté au profit d'un système pyramidal. Et selon les sages d'Israël, la tour était un observatoire qui dominait la ville, d'où il y avait des guetteurs qui pouvaient observer ce qui se passait dans chaque maison et qui faisaient un rapport au roi. Donc nous sommes ici dans un système qui est véritablement totalitaire. Et le jugement de Dieu qui va provoquer la dispersion des habitants de la ville, qui va créer les nations, est un antidote à ce système totalitaire qui aurait fait de l'humanité un véritable enfer. Et là, si un État devient totalitaire, il est possible de passer dans l'État voisin, il est possible de changer de lieu. Et c'est en cela que les nations sont en quelque sorte une soupape de sûreté à ce désir de totalitarisme qu'on trouve dans la plupart des dirigeants, la plupart des dirigeants aujourd'hui encore. Lieu de totalitaire, d'un empire totalitaire, mais qui devient aussi un lieu de non-communication. Et ça ressemble énormément à notre monde moderne. On est à l'époque de la communication. On a des moyens de communication sans précédent dans l'histoire. On peut communiquer en temps réel avec les antipodes. Et pourtant, il n'y a rien à communiquer. Des slogans publicitaires, c'est à peu près tout ce qu'il y a à communiquer. Ou des futilités, des banalités, mais rien de substantiel, rien qui soit véritablement déterminant. Il y a une uniformation de la culture, un terrorisme nivelant. Et aujourd'hui, c'est la marque de notre temps, c'est une culture de masse obligatoire. Et où que l'on voyage dans le monde, on retrouve les mêmes supermarchés, les mêmes chaînes de magasins, les mêmes paysages, les mêmes aménagements, les mêmes infrastructures, etc. Il y a une uniformisation du monde qui rend ce monde extrêmement désagréable, en fin de compte, extrêmement laid. Et finalement, qui porte la marque de l'Antichrist. Système totalitaire qui exige l'adaptation de tout homme, adaptation au système lui-même, un système de confusion, de non-communication et finalement de solitude. C'est un lieu d'exil, en fin de compte. On cherche à échapper à l'exil et c'est un lieu où l'homme est en exil. Il est en exil parmi ses semblables. Et il est dans un exil où il est pratiquement impossible de prêcher la parole de Dieu. Et Babylone est une ville où le dessein de l'homme aurait pu se réaliser. Et Dieu déclare, eh bien, ils ont entrepris ce plan, ce dessein, et si je n'interviens pas, eh bien, ils vont le réaliser. Et le monde sera invivable, le monde sera un véritable enfer. C'est une ville maudite, et c'est le comble de la malédiction de Dieu. Et voilà donc, Dieu dit, il descend, et il va confondre pour que les hommes ne se comprennent pas. Babel, c'est le lieu où tout le monde parle et où personne n'écoute. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il n'y a plus de place pour la parole. Il n'y a plus de place que pour le spectacle. Et ça, c'est la déshumanisation de l'homme. Parce que l'homme est essentiellement un être qui parle. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est en cela qu'il est l'image de Dieu, parce que Dieu est parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Dieu ne cesse de parler à l'homme. Dieu ne cesse d'interpeller l'homme. Et dans le jardin d'Éden, après la chute, il lui demande, « Homme, Adam, où es-tu ?» Et voilà, l'homme ne veut plus répondre à Dieu. Et Babel, c'est ce lieu où la parole n'est plus dite, elle ne peut plus retentir, et en particulier la parole de Dieu, parce qu'aucune parole n'est plus écoutée. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé. Et pourtant, tout le monde parle, mais parle pour ne rien dire. Et finalement, c'est une situation d'échec total dans laquelle se trouve la civilisation qui est celle de Babel. Quand je suis allé à Strasbourg la première fois pour y prêcher l'Évangile, les frères m'ont emmené dans entre deux réunions visiter le Parlement européen. Et le Parlement européen a ceci de particulier, c'est qu'il est construit en forme de tour et de tour inachevé. Et les frères nous ont expliqué que cette tour inachevée est inspirée justement de l'épisode de la tour de Babel. Et l'on a le sentiment à Strasbourg que l'on est en train de reconstruire Babel et que ce que l'on n'a pas réussi à faire dans toute l'histoire, on est en train de le réaliser. Babel a été donc jugée par Dieu et elle reste inachevée. Mais tous les conquérants ont toujours eu le désir et l'ambition d'achever, de reconstruire et d'achever Babel. Ça peut être les Assyriens, ça peut être les Babyloniens, Nebuchadnezzar, ça peut être les Perses, ça peut être Alexandre le Grand, ça peut être les Romains, ça peut être Charlemagne, ça peut être plus près de nous Napoléon, Hitler... Tous les grands conquérants ont toujours eu le désir de reconstruire Babel. Et il est intéressant de noter que Dieu n'a permis à aucun d'entre eux d'achever Babel. L'Empire universel, le grand village mondial, ne s'est jamais achevé, ne s'est jamais réalisé. Aucun empire, quelque grand qu'il ait été, quelque puissant qu'il ait été, n'a réussi à devenir un empire universel. Et pourtant, lorsque nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, nous retrouvons Babel. Et nous retrouvons Babylone, Babel, Babylone, c'est la même chose. Hein. Babylone, c'est en grec, Babel, c'est en hébreu. Babylone, qui cette fois-ci est une ville qui est achevée et qui se croit éternelle, qui dit « je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privé d'enfant ». Et voilà, Dieu lui permet d'être achevé, mais lui permet d'être achevé pour un court temps. Il faut être aveugle pour ne pas se rendre compte que nous sommes en train de vivre aujourd'hui exactement cette situation-là. Nous sommes en train de vivre une situation où Babel est en train d'être achevée, par la concrétisation, la réalisation de ce grand village mondial qui est en train de se manifester sous nos yeux. Un système totalitaire à l'échelle de la planète. Et l'on a aujourd'hui une tour de Babel, une tour d'observation qui est infiniment plus dangereuse que l'était la tour de Babel du temps de Nimrod et qui est tout simplement les moyens d'information et de surveillance qui sont aujourd'hui à disposition des pouvoirs publics. Quand on branche son GPS, on est repérable en temps réel. Quand vous donnez un coup de téléphone pour inviter votre beau-frère à manger dimanche prochain, eh bien, c'est enregistré aux États-Unis. Votre conversation est enregistrée aux États-Unis. Et comme le disait mon fils, actuellement, par rapport aux moyens d'information, à l'informatique et tout ce qui s'ensuit, nous sommes encore à l'âge de pierre par rapport à ce qui va venir. Un système où nos moindres faits et gestes seront épiés, seront repérés, nos moindres paroles seront enregistrées, où il n'y aura plus aucun espace, comment dirais-je, d'intimité personnelle véritable. Par conséquent, le système totalitaire qui avait été imaginé par Nimrod et qu'on retrouve précisément ici dans la Bible. Il est intéressant de remarquer également que, comme je disais tout à l'heure, Babylone s'oppose complètement à Jérusalem. Babylone, c'est une ville des hommes, c'est une ville qui est contre Dieu, c'est la civilisation mondiale, c'est l'apostasie mondiale, mais en même temps, Dieu dit, ben c'est une ville que vous avez voulu. Vous voulez vivre dans une ville, vous les hommes. Très bien. Vous voulez vivre dans une ville ? Eh bien, vous vivrez dans une ville. Mais cette ville, c'est moi qui vous la donnerai, c'est Jérusalem. Il est très intéressant de remarquer que l'histoire biblique commence dans un jardin et s'achève dans une ville. Contrairement au Coran, qui s'achève lui aussi dans un jardin. Et cette ville, eh bien, c'est une ville qui est la récapitulation de toute l'histoire humaine. C'est la ville de Jérusalem. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces deux villes ne peuvent pas exister ensemble. Lorsque la première Babylone, celle dont nous parlons dans le chapitre 10 et le chapitre 11 du livre de la Genèse, est jugée, Abraham en sort pour se mettre en route vers Salem. La geste d'Abraham, c'est un pèlerinage en quatre étapes. Une première étape qui l'amène à Sichem, une deuxième étape qui l'amène à Haï, une troisième étape qui l'amène à Hébron, et une quatrième étape qui l'amène à Salem, c'est-à-dire à Jérusalem. Jérusalem existe parce que Babylone est en ruine. Puis David, quelques siècles plus tard, s'empare de Jérusalem et il en fait sa capitale. Et cette capitale va devenir, sous Salomon, le successeur de David, la tête d'un puissant empire, un puissant empire israélite, le seul empire israélite qui ait jamais existé dans l'histoire. Et les historiens nous expliquent que cet empire israélite a été possible parce qu'à cette époque-là, Babylone était en ruine. La civilisation babylonienne était par terre. Et puis, lorsque Jérusalem décline après la mort de Salomon, après l'apostasie de Salomon et l'apostasie de ses successeurs, petit à petit, Babylone, si j'ose dire, va reprendre du poil de la bête. Babylone ressurgit de ses ruines et connaît une nouvelle apogée. Et quand Babylone arrive à l'apogée sous Nebuchadnezzar, eh bien, Babylone détruit Jérusalem. Les deux villes ne peuvent pas exister ensemble. Et les Israélites se retrouvent en exil à Babylone. Le peuple de Dieu est en exil à Babylone. Babylone, c'est le lieu de l'exil du peuple de Dieu. Sur les bords du fleuve de Babylone, psaume 137, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol du pays, nous avions suspendu nos harpes. Babylone, c'est vraiment le lieu de l'exil. 535 avant Jésus-Christ, Cyrus de Perse s'empare de Babylone et à nouveau Babylone se trouve dans une période de déclin. Et comme conséquence de la prise de Babylone, Cyrus autorise les Israélites captifs en Babylonie à reconstruire Jérusalem. Jérusalem est reconstruite parce que Babylone est en ruine. Les deux villes, encore une fois, ne peuvent pas exister ensemble. Et puis, nous retrouvons une nouvelle Babylone, ce que les sages d'Israël ont considéré comme une nouvelle Babylone, c'est-à-dire Rome. Rome, qui va aussi monter comme une étoile à son zénith, et qui, quand il arrive à son apogée avec Néron, eh bien, détruit à nouveau Jérusalem. Jérusalem qui se trouve aussi spirituellement dans une situation critique et qui va se trouver donc à nouveau partante pour un nouvel exil. Et Rome-Babylone va subsister pendant longtemps, pendant que Jérusalem est en ruine. Et aujourd'hui, nous voyons deux choses. Jérusalem qui ressuscite et Babylone qui périclite. Pourtant, on n'a pas l'impression que Babylone périclite. On a l'impression qu'au contraire, Babylone n'a jamais été aussi puissante. Babylone n'a jamais été aussi importante que ce grand village mondial dont nous parlions tout à l'heure. Seulement, le problème, c'est que les deux villes sont en conflit. Et le conflit actuellement au Moyen-Orient touche aussi à cet antagonisme entre Babylone et Jérusalem. Jérusalem qui ressurgit de ses ruines, et ça, Babylone ne peut pas le supporter, Babylone ne peut pas l'accepter, et Babylone fait tout pour détruire Jérusalem. Puis nous retrouvons Babylone dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, chapitre 17 et 18. Et là, nous retrouvons cette Babylone achevée, mais pour un court temps. Et là, le prophète déclare ceci, eh bien, il faut que Babylone soit détruite pour que Jérusalem puisse descendre du ciel. Et la ruine de Babylone, qui dans l'Apocalypse intervient en une heure, nous est-il dit, en une heure, son jugement est venu, elle qui se croyait éternelle, comme quand Hitler parlait de son Reich de 1000 ans, finalement qui n'a duré que 12 ans. Mais de la même manière, Babylone, merci beaucoup, Babylone va se trouver détruite, et la conséquence de la destruction de Babylone, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, et cette fois-ci qui triomphe de Babylone. Jérusalem supplante Babylone, et plus jamais Babylone ne sera reconstruite, comme le dit justement le livre de l'Apocalypse. Je voudrais m'arrêter. Alors, oui, il y a un autre point très intéressant, c'est la personnalité de Nimrod. Mais ça, j'y viendrai tout à l'heure. Je voudrais revenir maintenant sur une autre prophétie extrêmement importante qu'on trouve dans le livre de Daniel. Daniel, qui, on le sait, avait fait partie de ces exilés qui avaient été déportés à Babylone. Et là, à Babylone, il a deux visions. Plus exactement, le roi a une vision qu'il va interpréter, puis ensuite, lui, il a une autre vision. Et il y a deux textes fondamentaux dans le livre de Daniel qui sont le chapitre 2 et le chapitre 7. Le chapitre 2 est bien connu, la vision d'une grande statue qui est composée de 4 métaux dont la valeur va en décroissant. Une tête qui est en or, une poitrine qui est en argent, un ventre qui est de bronze, des jambes qui sont de fer et des pieds qui sont en partie de fer et d'argile. Et l'on sait comment, alors que cette statue est debout sur ses pieds d'argile, une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, ça veut dire sans que l'homme n'y soit pour rien, c'est l'œuvre de Dieu uniquement. Et cette pierre vient frapper le point faible de la statue, c'est-à-dire ses pieds d'argile, et la statue vole en éclats. Il n'en reste plus rien. Quant à la pierre, elle devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Ça, c'est la première vision. La deuxième, qui lui est parallèle, ce sont deux visions qui sont à étudier en parallèle. c'est celle dont nous avons déjà parlé, que j'ai déjà évoquée, la vision des quatre animaux du chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Quatre animaux, un lion, un ours, un léopard et une quatrième bête qui est une bête fantastique. L'interprétation de ces deux visions nous est donnée par le prophète lui-même. La statue, ce sont quatre empires qui se succéderont sur la surface de la terre jusqu'à la fin des temps, dont la valeur, dont la puissance ira en décroissant. Le premier de ces empires, la tête d'or, c'est l'empire babylonien. Le deuxième empire, la poitrine d'argent, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Le troisième empire, l'empire qui est représenté par le ventre de bronze, c'est l'empire des Grecs, d'Alexandre le Grand et de ses successeurs. Et enfin, le quatrième empire est un empire qui n'est d'ailleurs pas nommé par le prophète, tout simplement parce qu'il n'existait pas de son temps. Mais nous savons, nous qui vivons après ces événements, qu'à l'empire aux empires d'Alexandre le Grand a succédé l'Empire romain. Et dès l'époque, même avant Jésus, disons un bon siècle avant Jésus, on a interprété le quatrième empire comme s'agissant de l'Empire romain. Nous retrouvons exactement le même schéma dans la vision des quatre animaux qui sont identifiés par le prophète lui-même avec ces quatre empires-là. Le lion, c'est Babylone. L'ours, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Le léopard, c'est Alexandre le Grand et les Grecs. Et le quatrième empire n'est pas non plus nommé, pour cette même raison, qu'à l'époque de Daniel, il n'existait pas et que par conséquent, Daniel ne pouvait pas le nommer. Et les sages d'Israël ont beaucoup réfléchi sur ces quatre empires. C'est un thème qui revient très très souvent dans les commentaires rabbiniques. Ils ont dit des choses très intéressantes. Ils ont dit notamment ceci. Pourquoi le quatrième empire n'est-il pas nommé? Tout simplement parce que ce quatrième empire, il est destiné à durer jusqu'à la fin des temps. Il va durer jusqu'à la fin des temps sous différentes formes. Et cet empire, ce sera en fait une résurgence de Babylone. Babylone, le premier empire, Babylone, le pays de Nimrod, et Babylone qui réapparaîtra au temps de la fin, et il réapparaîtra sous plusieurs formes. C'est une des raisons pour lesquelles les sages d'Israël appellent Rome la nouvelle Babylone. Et nous avons vu tout à l'heure que c'était une assimilation qui avait été faite aussi par les sages. Babylone qui ressurgit et qui doit subsister jusqu'à la fin des temps. Alors, vous allez me dire, mais les sages d'Israël se sont trompés, parce que nous savons, nous, que l'Empire romain, qui a eu une longévité importante, a fini par disparaître sous le coup des barbares qui sont venus d'outre-Rhin. Or, les sages d'Israël nous disent ceci. L'Empire romain, le quatrième empire, la nouvelle Babylone, elle connaîtra plusieurs mutations. Et notamment, il y aura une première étape où l'Empire sera monolithique, symbolisé par exemple par les jambes de fer de la statue. Et le propre de cet empire, c'est que ce sera un empire qui sera basé sur la force, qui sera basé sur la puissance militaire, le fer. Ce qui a été le cas puisque Rome devait son empire à ses légions, on le sait. Puis, l'Empire romain connaîtra un deuxième stade, une deuxième étape, où il sera divisé comme sont divisés les 10 orteils du pied. Il sera divisé non pas en 10 empires, en 10 royaumes, mais en un certain nombre de royaumes. 10 étant, en l'occurrence, un chiffre symbolique. Et d'aucuns commentateurs se sont attachés à trouver ici un chiffre 10 qui n'est pas à prendre littéralement, mais qui est un chiffre symbolique, un certain nombre de royaumes. Il existera d'une manière morcelée, d'une manière qui leur a fait perdre, en fin de compte, une grande partie de sa puissance. Mais ce sera quand même l'Empire romain. et les sages d'Israël ont assimilé cet empire divisé avec l'Europe. L'Europe est pour eux le prolongement de l'Empire romain. Il est vrai, quand nous regardons l'histoire de l'Europe, que nous constatons que le rêve des Européens, ça a toujours été la reconstitution de l'Empire romain. Ça a été le rêve de Charlemagne, proclamé empereur d'Occident en l'an 800, comme on le sait. Ça a été le rêve de Napoléon. Pourquoi s'est-il proclamé empereur et non pas roi? Pourquoi son fils a-t-il été nommé roi de Rome? Pourquoi s'est-il inspiré dans ses codes de la législation romaine, etc.? Parce que Napoléon était un homme qui était fasciné par l'Empire romain et qui rêvait de reconstituer en Europe l'Empire romain. Et puis, il y a Hitler. Hitler aussi qui avait cette visée d'un Reich, c'est-à-dire d'un empire qui serait en quelque sorte la reconstitution de l'Empire romain. Et puis de nos jours, eh bien cet empire romain est en train de renaître avec l'Europe. Vous allez me dire, l'Europe, elle a subi des rudes coups ces temps derniers avec le Brexit, avec toutes sortes de soubresauts qui l'agitent, l'affaire des migrants et tout ce qu'on voudra. Certes, certes. Néanmoins, il y a une dynamique qui est en marche. Et on voit mal ce qui pourrait arrêter cette dynamique-là. Et les sages d'Israël ont dit autre chose de très intéressant. Ils ont dit ceci. Au temps de la fin, donc, l'Empire romain réapparaîtra, cette fois-ci réunifié, mais d'une manière très spéciale. Ce sera la troisième phase de l'existence de cet empire. Il sera composé de fer et d'argile, ça veut dire de deux entités qui seront totalement antagonistes et qui ne pourront pas du tout s'unifier comme elles le souhaiteraient. Et c'est tout le thème du livre de Daniel. Le livre de Daniel nous montre une alliance impossible entre ce qu'il appelle le roi du Nord et le roi du Sud. Une alliance impossible entre des rois, deux rois, qui essaieront de s'unir, mais que tout divisera, et notamment qui auront chacun des arrière-pensées par rapport à l'autre, qui essaieront, pardonnez-moi l'expression, de rouler l'autre dans la farine, de telle sorte que finalement, personne n'arrivera à ses fins. Et en fin de compte, au temps de la fin, eh bien, il y aura une destruction de ces deux empires-là, d'une manière tout à fait inattendue et d'une manière tout à fait inopinée. Maintenant, les sages d'Israël ont essayé d'identifier ces deux empires. Bon, l'empire du Nord, le roi du Nord, Nord par rapport à Israël, bien sûr. Quel est le pays qui se trouve au Nord par rapport, quels sont les pays qui se trouvent au Nord par rapport à Israël? C'est évident, c'est l'Europe. Donc, l'empire romain qui connaîtra ce temps où il sera comme un empire morcelé, mais qui, au temps de la fin, disent les sages d'Israël, sera réunifié. Et il faut s'attendre à une résurgence de Babylone, par conséquent, il faut s'attendre au temps de la fin à une résurgence de Rome. Quand j'étais jeune chrétien, il y a de cela bien longtemps, nos pasteurs nous disait déjà des choses un peu semblables. C'était le début du marché commun, ça veut dire le début de l'Europe, et on nous disait, eh bien, regardez ce qui va se passer, l'Empire romain va ressurgir. Mais mes études d'histoire m'amenaient à faire une petite remarque et une petite objection à cette idée-là. C'est que l'Empire romain, il existait sur les deux rives de la Méditerranée. Or, l'Europe, c'est la rive nord de la Méditerranée. Et voilà que depuis tout un temps, il y a une autre réalité qui se met en place. En 1975, a eu lieu à Venise une rencontre des principaux chefs d'État européens, sous la présidence de M. Giscard d'Estaing, qui était le président de l'Europe à cette période-là, et les représentants de la Ligue arabe. Cette réunion était à l'époque secrète, elle ne l'est plus aujourd'hui. mais à l'époque elle l'était. Et de ces négociations sont nés ce qu'on a appelé le projet Eurabia, c'est-à-dire l'union entre les deux rives de la Méditerranée, justement, l'union culturelle, économique, linguistique et éventuellement politique entre les deux rives de la Méditerranée, c'est-à-dire le monde européen et le monde arabo-musulman. On a gardé ce projet secret pendant tout un temps, et puis il ne l'est plus maintenant, il a changé de nom, c'est le dialogue interméditerranéen, dont M. Sarkozy était un fervent adepte. Et par conséquent, ici, nous voyons se mettre en place une union entre les deux rives de la Méditerranée. Une des clauses aussi de ces accords était le fait qu'on ouvrait les portes de l'Europe à l'immigration quasi illimitée de gens qui venaient de l'autre rive de la Méditerranée. Et ici, les sages d'Israël, ce qui est remarquable, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de constater qu'au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, les rabbins avaient déjà annoncé ces choses. Ils avaient annoncé que l'union entre le fer et l'argile, dont il est question dans le chapitre 2 du livre du prophète Daniel, serait au temps de la fin l'union entre le monde qu'il a appelé le monde chrétien à cette époque-là, c'est-à-dire le monde européen, et puis le monde arabo-musulman. Et cette alliance, disait-il, écrivait-il, serait une alliance contre nature, serait une alliance qui n'aboutirait pas. Et aujourd'hui, nous constatons à peu près cette réalité. On ne fait tout, mais les cultures sont trop différentes. Il y a trop de divergences entre les uns et les autres. Et l'on voit justement combien cette osmose que l'on souhaite a des difficultés à prendre. Les sages d'Israël nous ont dit une chose importante aussi à ce sujet-là. C'est que dans ces temps-là, dans cet empire babylonien qui serait reconstitué, car pour eux, l'empire islamique est un prolongement de Babylone pour eux. C'est une excroissance, en quelque sorte, de Babylone en direction du sud. Et il est très intéressant de constater, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, que nous retrouvons un peu cette idée-là. Le quatrième empire, cet empire qui est bicéphale, qui est donc composé à la fois du fer et de l'argile, eh bien, c'est quelque chose que nous retrouvons à la fin du livre du prophète Daniel, dans une ultime tentative de monter contre Jérusalem. Et il y a une alliance entre le roi du nord et le roi du sud, selon les prophéties de Daniel, chapitre 10, 11 et 12, pour détruire Jérusalem. Et les deux rois montent, l'un du nord, l'autre du sud, et finalement, sous les murailles de Jérusalem, il y a divergence de vues. Il y a conflit entre les deux rois qui finissent par s'auto-détruire, et Jérusalem, selon les livres du prophète Daniel, est miraculeusement délivrée sans avoir à combattre parce que les deux rois s'entretuent et s'exterminent l'un l'autre. Vous avez à peu près la même idée dans le chapitre 38 et 39 du livre du prophète Ézéchiel, où la grande coalition qui vient du nord, la grande coalition qui est menée par l'Antichrist, de l'autre côté du Jourdain, connaît des dissensions internes, et cette coalition s'autodétruit par les conflits internes qui l'agitent. Bien sûr, Dieu y met aussi un peu du sien, selon le prophète Ézéchiel, en faisant pleuvoir du soufre et de la pluie de feu sur les troupes de Gog. Mais grosso modo, c'est le schéma que nous retrouvons à peu près partout dans toutes les prophéties. Maintenant, ce livre du prophète Daniel, il est aussi sous-jacent au livre de l'Apocalypse. Le quatrième empire, cet empire bicéphale, nous le retrouvons aussi avec la quatrième bête de Daniel, cette bête fantastique que nous avons évoquée. Et là, il nous faut venir au livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse qui est un prolongement du livre du prophète Daniel, ou plus exactement un commentaire du livre du prophète Daniel. Et là, nous retrouvons, on l'a vu, la Grande Babylone, mais également, il y a un autre aspect, c'est que nous retrouvons la quatrième bête de Daniel. En fait, nous retrouvons deux bêtes dans le livre de l'Apocalypse. Jean ne parle pas des trois premières bêtes. Pourquoi ? Parce que de son temps, ces empires-là ont disparu. Par conséquent, ils ne l'intéressent pratiquement plus. Mais par contre, ce qui l'intéresse, c'est la bête qui existe de son temps, c'est-à-dire la quatrième bête, la bête qui représente l'Empire romain. Cette bête, il est à remarquer qu'elle monte de la mer. La mer, Mare Nostrum, disaient les Romains, c'est la Méditerranée, la Grande Mer. La mer, c'est l'image des nations dans la Bible, c'est l'image des peuples. Et l'Empire romain était appelé aussi par les Juifs de l'époque de Jésus, les nations, parce que c'était une mosaïque de nations et de peuples divers. Et l'Empire romain, donc, eh bien, il représente cette bête féroce qui est animée. Les bêtes dans les Apocalypses sont à la fois les empires et les rois des empires. Si bien que nous retrouvons ici cette même dualité dans la bête de l'Apocalypse, dans la première bête de l'Apocalypse, qui est donc à la fois l'Empire romain et le chef de cet empire, l'empereur. Et finalement, surgit un être que nous appelons dans notre tradition chrétienne l'Antichrist. Or, l'Antichrist, c'est une notion juive. L'Antichrist n'est pas ce que les pères de l'Église en ont fait, qui était marqué par leur antisémitisme. Puisque les Juifs sont un peuple diabolique, il est absolument évident que l'Antichrist sera un Juif. Et on va même jusqu'à prétendre qu'il appartiendra à la tribu de Dan. Rien n'est plus inexact que cela. L'Antichrist, c'est celui qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu et qui se proclame lui-même Dieu. Et il est bien évident qu'un juif, même un juif athée, l'abomination suprême, c'est de diviniser un homme. Jamais les juifs n'accepteront d'adorer un homme. Par conséquent, l'Antichrist ne peut pas être un juif. C'est impossible. Et par contre, les sages d'Israël nous disent ceci. On trouve deux mentions de l'Antichrist dans les sources juives. Il ne s'appelle pas l'Antichrist. On l'appelle Aracha, le méchant, le mauvais, l'impie. Et on retrouve cette idée dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, où il est question du Messie au temps de la fin, qui sera rempli de toute la puissance de l'Esprit de Dieu. Et il nous est dit ceci, cet Esprit qui le remplira, cet Esprit de Dieu, eh bien, du souffle de l'Esprit de sa bouche, il fera périr le méchant. Donc le méchant, les sages d'Israël l'ont interprété avec l'Antichrist. Vous retrouvez une citation presque mot à mot de ce verset dans la deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 2, où Paul nous parle de l'apostasie et nous dit qu'avant le temps de la fin, il faut qu'on ait vu d'abord paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'impie, qui se nomme lui-même Dieu et qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu. Et la puissance de cet impie se fera par la manifestation de la puissance satanique, par des signes et des prodiges mensongers, mais le Seigneur Jésus le fera périr du souffle de sa bouche, de l'esprit de sa bouche. Citation d'Ésaïe 11, mot à mot. Donc Paul connaissait parfaitement cette tradition-là et il la cite dans la deuxième aux Thessaloniciens. Et puis, il y a une deuxième mention qui est faite de l'Antichrist dans la tradition juive, c'est que l'Antichrist, plutôt l'impie, le méchant, le rachat, comme on dit en hébreu, sera un nouveau Nimrod. Un Nimrod qui réapparaîtra à la fin des temps, en même temps que réapparaîtra la Grande Babylone. Et c'est exactement ce que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, nous avons l'apparition de cette première bête, qui manifestement est l'Empire romain de l'époque de Jean, bien sûr, mais aussi l'Empire romain reconstitué au temps de la fin, puisqu'il réapparaîtra, selon l'interprétation des sages. Et puis, nous trouvons une deuxième bête. Alors, il y a deux monstres, un monstre terrestre et un monstre marin. Remarquez qu'on a quelque chose de semblable aussi dans le livre de Job, où il y a un monstre marin qui est le Léviathan, qui vit dans la mer, et nous avons un monstre terrestre qui s'appelle Béhémoth. Alors, on traduit en général ces deux mots par le crocodile et par l'hippopotame, mais quand on lit la description de ces deux animaux tels qu'elles se trouvent dans le livre de Job, nous nous rendons compte que ça va beaucoup plus loin que ces deux animaux-là. Ce sont des bêtes fantastiques, ce sont des bêtes diaboliques. Et il n'est pas étonnant que nous retrouvions ces animaux dans le livre de l'Apocalypse. Un deuxième bête, une bête terrestre, un monstre terrestre, dont il nous est dit qu'il monte du désert, et qui plus est, qu'il est un faux prophète. Et quelle est la religion qui vient de la terre, c'est-à-dire du désert, qui a comme fondateur un faux prophète? Eh oui, l'islam. Et les sages d'Israël nous ont dit qu'au temps de la fin, il y aurait cette alliance entre la chrétienté et l'islam, contre Israël, et vous retrouvez ça dans le livre de l'Apocalypse. Mais que cette tentative avorterait à cause de la puissance de Dieu qui interviendrait pour empêcher cette manifestation de la puissance de l'ennemi, de la puissance satanique. Il y a donc ici une anticipation de ce que nous sommes en train de vivre de nos jours. Et ça, je vais peut-être en parler tout à l'heure. Je vais m'arrêter là, j'ai une heure qui est déjà passée. Peut-être qu'on va d'abord prendre un petit temps de questions sur ce qu'on vient de dire jusque maintenant. Ça peut, avant d'aller plus loin, ça me permettra ensuite d'orienter la deuxième partie. Et puis on prendra peut-être un petit break aussi.
Ouais. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que, pour éviter ça, est-ce qu'il faut voter Marine Le Pen, qui justement propose que les nations se refassent pour éviter qu'il y ait un village mondial? Est-ce que les choix politiques peuvent changer ça?
Je n'irai pas jusque-là. Chacun voit dans son âme et conscience ce qu'il a à faire dans ces domaines-là. Marine Le Pen, elle est dangereuse sur bien d'autres plans. Mais peut-être que les Anglais n'ont pas eu tout à fait tort quand ils sont sortis de l'Europe.
Oui.
Attendez une seconde. Oui, allez-y.
Levez-vous chaque fois.
Vous faites beaucoup référence aux sages d'Israël.
Pardon ?
Vous faites beaucoup référence aux sages d'Israël.
Oui.
J'imagine le Talmud. Est-ce que je ne sais pas si je me trompe. Quand vous faites référence aux sages d'Israël, j'imagine que c'est la référence au Talmud.
C'est plus que ça encore, si vous voulez. Les sages d'Israël, ce sont des gens qui sont apparus dans l'histoire du peuple après le retour de l'exil de Babylone. Au moment où, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Malachie, la voix prophétique s'est tue. Il n'y a plus eu de prophète après Malachie. Et Malachie l'avait annoncé en disant « Je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel ». Ça veut dire qu'entre lui et la venue du Messie, la voix prophétique se taira. Il n'y aura plus... Le Saint-Esprit sera retiré d'Israël, le ciel sera fermé. C'est ce que les expressions qu'emploient les sages. Or, s'il n'y a plus de voie prophétique, comment connaître la volonté de Dieu? Comment se guider dans tous les méandres de l'histoire qui va venir? Eh bien, souvenez-vous de la Torah que Moïse, mon serviteur, vous a prescrite à Horeb. Et on n'a plus de voie prophétique, mais on doit chercher dans la Torah toutes les réponses à toutes les questions que l'on pourrait se poser. La Torah, elle est immuable. On ne peut pas changer un seul iota, un seul trait de lettre, ce que Jésus confirmera dans le sermon sur la montagne. Mais, bien que cette Torah ne peut pas changer d'un iota, eh bien, elle s'adapte à toute situation nouvelle. elle a une réponse à toutes ces situations nouvelles. Je vais vous donner un exemple. Quand on a commencé à faire des transplantations d'organes, on a posé la question au rabbin, est-ce que la Bible est pour ou contre les transplantations d'organes ? Qu'est-ce que vous auriez répondu ? C'est pas évident, hein ? Alors la réponse des sages était celle-ci, oui. La Bible est en faveur des transplantations d'organes. Comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion-là ? Eh bien, de la manière suivante. La Torah est une Torah de vie. Le but du commandement, c'est de donner la vie et non pas la mort. Et c'est la raison pour laquelle une transplantation d'organes, ça a pour but quoi ? De sauver une vie. Donc, dans l'esprit de la Torah, c'est positif. Et si la transplantation d'organes avait existé à l'époque de Moïse, Moïse aurait été pour. Vous voyez ? Alors, la Bible répond à toute situation nouvelle, mais il faut savoir la lire. Et ça, ce n'est pas à la portée du premier venu. Il faut qu'il y ait des gens qui soient revêtus d'un esprit de sagesse et qui soient capables d'interpréter la Torah dans le contexte de la situation nouvelle dans laquelle nous sommes. Et c'est ce qu'on appelle les sages. Ezra était le premier des sages, celui qui est revenu de Babylonie justement avec la Torah. Il en a fait la lecture publique et il a constitué un collège de 120 sages qu'on appelle Knesset Agdola, la grande synagogue, qui avait pour but justement d'interpréter la Torah dans toutes les situations nouvelles qui allaient apparaître dans l'histoire. Et c'est ça qu'on appelle les sages d'Israël. Ils se sont transmis cette fonction de génération en génération. Alors évidemment, toute une partie de leur savoir se trouve effectivement mentionnée dans le Talmud, mais ça va plus loin que ça. La tradition, oui. C'est la tradition.
Comme le monde chrétien, et on voit où la tradition a pu, s'éloigner un peu de la parole.
J'ai essayé d'être rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je pense que ce que tu veux dire, c'est pas la Bible, quoi.
Je veux dire, non, mais je comprends, mais c'est une question importante, il faut que j'y réponde quand même. Je prenne le temps de répondre.
Oui, mais je voudrais que tu synthétises parce que.
Non, c'est pas que c'est pas tout à fait la Bible. C'est pas que c'est pas la Bible, mais c'est que. Il y a des moments où où l'interprétation peut être conforme à la Bible. Et quelle est la part de l'éloignement de la Bible ? Autrement dit, quelle est la réserve qu'on peut avoir par rapport à...
Alors, pour répondre assez rapidement à cette question-là, de fait, c'est une tradition. Et le Nouveau Testament connaît une tradition. Vous avez de nombreux éléments de la tradition qui sont contenus dans le Nouveau Testament. De cette tradition des sages. Par exemple, la tradition du puits de Myriam. Vous avez ça dans le chapitre 10 de l'épître, la première épître aux Corinthiens, que les Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Messie. Bon, montrez-moi un texte dans le livre de l'Exode où il est question de ça. Il n'y a pas. C'est une tradition orale qu'on trouve chez les sages d'Israël, c'est la tradition du puits de Myriam. Myriam avait été tellement spirituelle qu'elle avait donné un puits au peuple d'Israël qui les suivait dans toutes ses pérégrinations jusqu'au moment où elle est morte. Au moment où elle est morte, le puits a disparu, d'où l'affaire de Meriva où ils n'ont plus d'eau à boire. Et donc la révolte qui a amené Moïse à pécher contre Dieu et à ne pas entrer dans la terre promise. Vous avez aussi le nom des sages de l'Égypte. Jannès et Jambres. Où est-ce que vous trouvez ça dans l'Écriture ? Nulle part, c'est la tradition. Beaucoup de traditions qui touchent sur les anges, sur la résurrection, sur des choses comme ça, que vous trouvez dans le Nouveau Testament, sont issues de la tradition juive et non pas de l'Écriture elle-même. Alors, le Nouveau Testament croit dans une certaine tradition. Ça nous choque, nous les protestants, mais c'est comme ça. Donc, il n'y a pas tout à rejeter. Et comment faire le tri entre le bon grain et l'ivraie ? Eh bien, simplement, à partir du Nouveau Testament, justement. Parce que Jésus et Paul connaissaient la tradition orale, et ils l'ont utilisée quand elle était positive et ils l'ont laissée quand elle était mauvaise. Par exemple, Judas aussi reprend cette tradition quand il parle de la dispute entre Michaël, l'archange Michaël, et puis Satan pour le sujet du corps de Moïse. Ça, vous ne trouvez pas ça dans l'écriture inspirée. Donc il y a effectivement une tradition orale. Et ça, vous pouvez pas l'empêcher. Alors Jésus et les apôtres connaissaient cette tradition, et même quand il l'a rejetée, il la connaissait. Parce qu'il l'a rejetée parfois. Quelquefois il l'a acceptée, quelquefois il l'a rejetée. Et par conséquent, alors n'allons pas nous jouer aux hommes inspirés en disant dans la tradition juive telle et telle chose est inspirée, telle chose ne l'est pas. Il faut nous baser sur le Nouveau Testament uniquement.
Une autre question, Lucie ?
Ah, tu te lèves,
qu'on t'entende.
Vous n'avez pas parlé de la bête terrestre, d'accord ? En l'occurrence, l'islam.
Oui.
D'accord ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la religion unique est déjà en place, à savoir l'islam ?
Alors ça, je n'irai peut-être pas jusque-là, parce qu'en fait, il y a antagonisme entre le christianisme, le judéo-christianisme, et puis l'islam. C'est le fer et l'argile, en fin de compte. Et elles coexistent ensemble, mais elles coexistent d'une manière difficile, voyez-vous. Maintenant, ce qui va se passer, ça c'est autre chose, ça Dieu seul sait, mais c'est sûr que là on est dans une situation extrêmement préoccupante. Oui.
Oui.
Alors ça, c'est une question très vaste. Je crois que ça dépend de la qualité de notre vie spirituelle, notre vie de prière, notre vie de consécration, notre vie de sanctification avec le Seigneur. C'est tout ça, quoi. Là, il n'y a pas de secret, finalement. C'est simplement vivre une vie chrétienne authentique et vraie. Et puis, le reste, ben, c'est le Seigneur qui le fait. C'est pas nous, vous voyez.
Une autre question ?
Attendez, parlez fort parce que je n'entends pas bien. Oui, le monde arabe est issu d'Ismaël, oui. Oui. Alors, il faudrait se garder de mettre ces deux bénédictions sur le même plan. Ça, beaucoup de chrétiens franchissent ce pas-là et ils vont un peu vite en besogne. Il y a effectivement une bénédiction qui est donnée à Ishmaël, mais comme le disent les sages d'Israël, c'est une bénédiction terrestre. Dieu avait promis à Abraham le pays de Canaan depuis le fleuve d'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte, c'est-à-dire finalement tout le Moyen-Orient, c'est-à-dire un territoire considérable. Et puis Abraham a péché en engendrant Ishmaël. Non pas en allant vers Agar, ça c'est autre chose, ça c'était un moyen qui était légitime à l'époque de se susciter une descendance quand on n'en avait pas. On pouvait prendre une concubine une servante de la femme légitime. Et le fils qui naissait, l'enfant qui naissait de cette union-là était considéré comme le fils de la femme légitime. Donc ça, c'est pas le problème. Mais il a manqué de foi, surtout. Il a manqué de foi dans la parole de Dieu. C'est ça le problème. Et quelques temps plus tard, donc quand Ishmaël a 13 ans, Dieu lui parle et lui dit maintenant, de l'an prochain, Sarah, ta femme aura un fils. Et c'est par lui que va passer ma promesse. Non pas par Ishmaël, comme tu l'as cru. Tu t'es trompé, Abraham, complètement trompé. Ma promesse, elle va passer par le seul Isaac. Et il le redit à deux reprises dans le chapitre 15, dans le chapitre 17 du livre de la Genèse. Et Abraham comprend que Ishmaël, c'est un jeûneur. et une question née dans son esprit, une crainte née dans son esprit, et si Dieu le reprenait, puisqu'il est un obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu. Et nous voyons Abraham qui va intercéder d'une manière pathétique en faveur d'Ishmaël. « Oh, qu'Ishmaël vive devant ta face !» Chapitre 17, vive la Genèse. Et Dieu lui répond et le rassure immédiatement. Il lui dit « Abraham, il n'est pas question de ça du tout. Ce fils est ton fils, non seulement il vivra, mais puisqu'il est ton fils, il aura aussi une bénédiction. » Mais ce n'est pas la bénédiction que je t'ai donnée à toi, Abraham. Cette bénédiction, elle passera simplement par Isaac et par ses descendants. Ishmaël aura une autre bénédiction, une bénédiction terrestre. Ça veut dire le pays que je t'ai promis, je le diviserai en deux. Je donnerai la plus grande partie de ce pays à Ishmaël. Pourquoi ? Parce qu'il est l'aîné. Et dans la culture de l'époque, l'aîné avait une part d'héritage beaucoup plus grande que le reste de ses frères. Par conséquent, ce territoire considérable qu'Isaac aurait dû posséder, c'est-à-dire les Juifs auraient dû posséder, ça veut dire qu'il va depuis l'Euphrate jusqu'au Nil, il est maintenant réduit à un tout petit pays qui est le pays d'Israël. Et voyez-vous, l'idée selon laquelle les frontières du pays promis vont de l'Euphrate au Nil, eh bien, ça a été le cas, oui, mais ça n'est plus le cas depuis que Ishmaël est venu au monde. Alors, bien sûr, Dieu a fait une promesse à Ishmaël, mais c'est une promesse uniquement terrestre. Et on ne peut pas la mettre sur le même plan et dire les Arabes sont bénis de Dieu, etc., etc. Oui, ils sont bénis temporellement, matériellement, mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de bénédiction spirituelle. Il ne faudrait surtout pas voir l'islam comme quelque chose qui est en conformité avec le plan de Dieu.
Une autre question ? Une dernière, hein ? On va faire une pause. Est-ce qu'il y a encore un exposé derrière ?
Est-ce que les autres chrétiens, hein, en Occident, depuis 1500 ans en tout cas, est-ce qu'on n'a pas finalement favorisé ce terreau à cette uniformisation globale au travers de notre évangélisation maladroite ? Mais je pense à l'Amérique latine, je pense même à l'Afrique. On est arrivé au nom de Dieu, on t'apprend sur les gens, et aujourd'hui, il y a finalement cette espèce de fluidité, d'oppression sur des nations, sur des cultures différentes, et qui favorise ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, et que vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que finalement, en voulant bien faire, on a mal fait, ou enfin, on a mal fait de toute façon, est-ce que finalement, le rôle du chrétien et son rôle d'aller vers les nations pour parler de la bonne nouvelle, ça n'a pas aussi finalement été quelque chose qui a...
Toute œuvre humaine est imparfaite. Donc toute œuvre d'évangélisation l'est aussi. Mais je ne pense pas qu'il faille se culpabiliser outre mesure et regretter le travail d'évangélisation qui a été fait. Parfois, il a été fait maladroitement, c'est vrai, mais il y a eu des choses admirables qui ont été réalisées aussi. Et aujourd'hui, beaucoup de peuples ont la connaissance de l'Évangile par l'intermédiaire justement de la mission chrétienne. Et ça, c'est quand même quelque chose. C'est une extraordinaire épopée qui a été réalisée et qui est tout à fait à la gloire de l'Église, même si elle a ses ombres. Oui, elle a des ombres, c'est vrai, ça, c'est indiscutable. Mais disons, le bilan, comme disait en son temps un homme politique, est globalement positif.